13h.
Avec Pascal Paradoux, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Merci d'écouter RFI midi en temps universel. Il est 13h ici à Paris.
RFI midi.
L'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour Anne Cantner. Bonjour à toutes et à tous. Au moins 737, 2500 ou plus. Des ONG tentent de faire le bilan sanglant de la répression des manifestations en Iran. Le président américain, lui, appelle les protestataires à poursuivre leur mobilisation et menace les autorités d'actions très fortes. Mais de quelle action parle-t-on? Vous y reviendrez aussi avec votre invité.
Oui, le colonel Per De Jong, vice-président de l'Institut de formation Témis et professeur associé à l'école de guerre économique.
Et notre correspondant à Téhéran nous appelle dans un petit instant. Le Groenland appartient à ses habitants et ils peuvent compter sur nous. Déclaration de la présidente de la Commission de l'Union européenne, soutien réaffirmé à quelques heures maintenant d'une réunion aux États-Unis entre responsables américains, danois et groenlandais. Sécurité maximum et internet coupé, ambiance très crispée en Ouganda à J-1 des élections présidentielles et législatives. Le chef de l'État sortant se représente, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 40 ans maintenant.
RFI Midi.
À suivre aussi le prix Tyler, surnommé le Nobel de l'environnement. Il est décerné à une biologiste américaine, Toby Kears, pour ses fascinants travaux sur les réseaux de champignons. C'est extraordinaire ce qui se passe sous terre, sous nos pieds. Et puis il n'en restera plus que deux ce soir à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de foot, après les demi-finales. Très belles affiches tout à l'heure, Sénégal-Égypte et puis Maroc-Nigéria.
Toujours pas d'internet en Iran, il est donc toujours compliqué de prendre la mesure de la répression du mouvement de contestation.
Selon des ONG basées en Norvège et aux États-Unis, elle a fait cette répression entre 734 et 2500 morts. De son côté, Human Rights Watch fait état de tueries à grande échelle. Le président américain appelle donc les manifestants à poursuivre leur mobilisation, à prendre le contrôle de leurs institutions. Message écrit en majuscule posté sur son réseau social. Donald Trump, dont les intentions restent floues, les États-Unis ont promis d'agir de manière très forte, je cite, si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées lors des manifestations, sans préciser quel serait le type d'action en question. Siavosh Ghazi, vous êtes notre correspondant à Téhéran. Alors comment est-ce qu'on réagit en Iran à ces menaces?
En fait, tout le monde nous parle que des menaces du président Trump. Comment les États-Unis vont intervenir? Vont-ils viser les dirigeants politiques et militaires du pouvoir ou encore les bases des forces de l'ordre ou des gardiens de la révolution? Ces questions reviennent bien sûr dans toutes les conversations. Certaines personnes qui avaient participé aux manifestations le souhaitent, alors que d'autres craignent un engrenage qui ferait basculer le pays dans des violences encore plus dures, avec le risque d'une déstabilisation du pays, comme on a pu le voir par exemple dans d'autres pays de la région comme la Libye, la Syrie ou encore l'Irak. En tout cas, côté pouvoir, la réponse a été très ferme. Plusieurs responsables ont mis en garde les États-Unis contre toute attaque en affirmant que l'Iran ripostera de toutes ses forces et visera les bases américaines dans la région, mais aussi le territoire israélien. Et le chef de la force spatiale des gardiens de la révolution, qui est en charge du programme balistique du pays, a affirmé aujourd'hui même que la production de missiles de ces forces avait augmenté par rapport à avant la guerre de 12 jours, en juin dernier, guerre qui a été lancée par Israël contre l'Iran, et que cette force était prête à répondre à toute agression.
Siavosh Ghazi, correspondant à Téhéran, je précise que des communications téléphoniques sont de nouveau possibles depuis l'Iran vers l'étranger, mais pas l'inverse. Et pendant ce temps, les autorités iraniennes, elles, resserrent l'étau sur la population. Bonjour Abla Jounaïdi.
Bonjour.
Les autorités ont annoncé des procès rapides pour les suspects arrêtés lors des manifestations.
Oui, sur la télévision d'État, le chef du pouvoir judiciaire iranien a promis des procès rapides pour les suspects arrêtés lors des manifestations qualifiées d'émeutes par les autorités. Washington a prévenu Téhéran d'une intervention en cas d'exécution de manifestants. Jointe par RFI, l'organisation des droits de l'homme Hangout dit avoir parlé avec la famille du jeune Erfan Soltani, 26 ans. Les autorités ont appris à la famille hier que leurs proches pourraient être pendus aujourd'hui même. Indéniablement, les autorités resserrent encore les taux et la peur s'instille parmi la population. D'après des témoins joints par RFI, dans plusieurs hôpitaux, les médecins n'osent parfois pas garder les blessés par balle de peur d'attirer l'attention des forces de sécurité. Alors qu'en ce moment même, d'après la télévision d'État, les funérailles de plus de 100 membres des forces de sécurité sont en cours à Téhéran, les enterrements de manifestants tués sont devenus un sujet d'inquiétude en soi. Plusieurs familles évoquent les difficultés à récupérer les corps de leurs proches. Certaines se seraient vues réclamer des sommes d'argent, l'équivalent de 600 à 1200 euros. Cela retarde d'autant plus les funérailles dans un pays où d'ordinaire on enterre rapidement les morts, selon la tradition islamique.
Abla Jounaïdi du service international de RFI, la situation en Iran condamnée par plusieurs pays étrangers, dont la France, selon Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Sur la radio RTL ce matin, la répression pourrait être la plus violente de l'histoire contemporaine de l'Iran.
Autre annonce du chef de la diplomatie française, Paris va ouvrir un consulat au Groenland.
Ce sera début février, le 6 précisément, un signal politique, dit Jean-Noël Barrot, alors que le territoire autonome danois est convoité, on le sait, par Donald Trump, qui l'a dit et répété, il veut s'en emparer. À l'instant, le président américain indique que les États-Unis ont un besoin vital du Groenland pour leur projet de bouclier antimissile. Le président français Emmanuel Macron lui prévient qu'une violation de la souveraineté du Groenland entraînerait des conséquences en cascade qui seraient inédites. Et dans ce contexte très crispé, une réunion est prévue tout à l'heure à la Maison-Blanche à Washington. Les chefs de la diplomatie du Danemark et du Groenland vont rencontrer le chef de la diplomatie américaine et surtout le vice-président J.D. Vance, qui était en retrait ces derniers temps, Karine Auton.
Et si le Groenland était un moyen pour J.D. Vance de revenir dans la lumière? Le vice-président américain s'était rendu sur le territoire autonome l'an dernier, portait les ambitions expansionnistes de Donald Trump, et il reçoit aujourd'hui les émissaires danois et groenlandais à Washington. Alors que ces 10 derniers jours ont été accaparés par le Venezuela, où le secrétaire d'État Marco Rubio s'est démarqué, J.D. Vance va pouvoir réimposer la géopolitique américaine de sa marque. Alors qu'il a été déployé en Irak, il a toujours pris ses distances avec l'interventionnisme américain. Il est plutôt America First. Il a d'ailleurs été écarté du petit groupe qui a décidé et planifié les frappes militaires à Caracas le 3 janvier, ainsi que l'arrestation de Nicolas Maduro. Marco Rubio a lui mené le bal et semble pour l'instant ressortir plus fort de l'épisode vénézuélien. Or, comme le vice-président n'a pas encore été désigné comme le successeur officiel de Donald Trump, que son avenir politique est encore en jeu et qu'il est en compétition directe avec le secrétaire d'État, il y a fort à parier qu'il va vouloir satisfaire au mieux le président américain sur le Groenland. Karine Auton, New York, RFI.
Le Danemark affirme aujourd'hui qu'il va continuer à renforcer sa présence militaire au Groenland, qu'il a un dialogue continu avec ses alliés pour accroître les activités de l'OTAN en Arctique. Et après l'intervention militaire américaine au Venezuela qu'on évoquait à l'instant, Caracas a commencé à libérer des prisonniers américains, selon un responsable du département d'État. Par ailleurs, le réseau social X est de nouveau accessible au Venezuela. Il était bloqué depuis plus d'un an par le président vénézuélien déchu, Nicolas Maduro.
Pas de réseaux sociaux ni d'internet en général, en revanche en Ouganda.
Le pays coupé du monde avant les élections présidentielles et législatives prévues demain. Alors officiellement, il s'agit d'éviter le risque de désinformation, de fraude électorale, d'incitation à la violence, c'est ce que disent les autorités. Mais sur le terrain, des reporters parlent aussi d'entrave à la couverture du scrutin. Bonjour Christina Okello.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Et des témoins décrivent un dispositif sécuritaire très lourd.
Oui, on dirait que le pays se dirige vers la guerre, témoigne Hilary Semandar, avocat de droits humains. À Kampala, il décrit une ville sous tension. Des militaires partout, mitrailleuses à la main et même des blindés visibles dans certains quartiers. Le but, dit-il, c'est de faire peur et de dissuader une partie de la population d'aller voter. Le scrutin demain, c'est un match retour entre deux adversaires qui se connaissent bien. Le président sortant, Yoweri Museveni, brigue un 7e mandat après plus de 40 ans au pouvoir. Son camp martèle le slogan « Protecting the gains » ou « Protéger les acquis » en mettant en avant la stabilité. En face, son principal rival, Bobi Wine, dénonce un système verrouillé et appelle les électeurs à se mobiliser malgré les restrictions. Dans ces climats, les journalistes sont aussi sous pression. Des reporters étrangers, pourtant accrédités, disent avoir été refoulés lors du dernier meeting du président. président Yair Museveni. Et sur place, la peur peut aussi peser sur la participation. L'avocat Ilri Semanda dit redouter que certains n'osent même pas se rendre aux urnes.
Ambiance très, très tendue donc avant ces élections prévues demain en Ouganda. Merci Christina Okello. Élections en vue aussi au Japon, puisque c'est confirmé, la première ministre Sanae Takaichi a l'intention de dissoudre la chambre basse. Ce sera à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire la semaine prochaine, le 23 janvier. C'est ce qu'indique de hauts cadres du Parti libéral-démocrate au pouvoir. Ça va donc ouvrir la voie à des élections anticipées. Ce sera probablement en février. Alors pourquoi cette dissolution annoncée, Yelena Tomic, et pourquoi maintenant ?
Le timing est éminemment politique, car ultra favorable à Sanae Takaichi, dont le cabinet bénéficie d'une popularité record, autour de 70% d'opinions favorables selon de récents sondages. Un moment idéal donc pour convoquer des élections anticipées et grignoter de nouveaux sièges au Parlement. Car depuis son élection en octobre au poste de chef de gouvernement, la coalition formée entre son parti, le PLD, et le Ishin no Kai, le parti de l'innovation, ne dispose que d'une très courte majorité à la Chambre basse, ce qui entrave la capacité de Takaichi à faire adopter son ambitieux programme politique. Une majorité plus confortable lui permettrait d'avoir le dernier mot, notamment sur le budget record de 659 milliards d'euros approuvé par son gouvernement, mais qui doit obtenir l'approbation parlementaire. En dehors du programme budgétaire, Takaichi espère aussi avoir la voie libre pour avancer sur les réformes sécuritaires et une possible révision de la Constitution qui, depuis 1945, n'autorise plus le Japon à déclarer la guerre.
En France, le gouvernement de Sébastien Lecornu face à deux nouvelles motions de censure aujourd'hui déposées par le Rassemblement national et la France insoumise pour protester contre l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Peu de chance que ces motions soient adoptées. 10 militants d'extrême droite britannique désormais interdits de territoire français. Décision du ministère de l'Intérieur après plusieurs signalement d'associations sur la côte nord de la France. Elles dénonçaient des opérations de harcèlement, d'intimidation envers leur personnel, mais aussi les exilés, les candidats à la traversée de la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne. Explication Marie Casadebé.
Depuis le mois de mai, le groupuscule Raise the Colors poste régulièrement sur ses réseaux sociaux des vidéos de ses expéditions entre Calais et Dunkerque.
Where you going, guys? Où est-ce que vous allez, les gars? En Angleterre? Vous n'êtes pas les bienvenus en Angleterre. Allez vous faire foutre.
Ici, trois militants insultent des exilés à un point de distribution de nourriture. Là, ils tentent d'intimider une équipe de bénévoles de Médecins Sans Frontières. Dans son communiqué, le ministère français de l'Intérieur précise que le groupuscule s'adonne aussi à des actions de recherche et de destruction de small boats, ces bateaux gonflables utilisés pour les traversées de la Manche, et d'activités de propagande à destination du public britannique. Les ONG signalent des allers-retours depuis des mois, leurs appels sont enfin entendus. Stella est chargée de communication pour l'association L'Auberge des Migrants à Calais.
C'est un premier pas qui va dans le bon sens, mais ça arrive très tard. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que l'État protège réellement les personnes exilées. Cette violence, elle ne tombe pas du ciel. C'est des années de politique publique qui criminalise les personnes exilées et qui banalise les discours haineux. Cette propagande ne va pas s'arrêter avec cette interdiction de rentrer sur le territoire français.
La justice française a par ailleurs ouvert une enquête préliminaire pour violence aggravée. Début septembre, quatre hommes arborant des drapeaux britanniques s'en étaient pris verbalement et physiquement à des migrants près de Dunkerque.
Explication Marie Casadebé. Et puis on le surnomme le Nobel de l'environnement, le prix Tyler, décerné aux personnes ou organisations qui apportent des contributions exceptionnelles à la science environnementale. Et là, cette année, c'est une biologiste américaine qui l'obtient, Toby Kears, pour ses travaux extraordinaire sur les réseaux souterrains de champignons, Stéphanie Schuller.
Un sac de terre contient une galaxie. Ces mots sont ceux de Toby Kears. Âgée de 49 ans, cette New-Yorkaise a révolutionné notre compréhension de ce qui se passe sous nos pieds. Imaginez un supermarché invisible sous terre. Les plantes vendent du sucre issu de la photosynthèse à un immense réseau de champignons qui leur fournissent en retour du phosphore et de l'azote extraits du sol. Toby Kears a prouvé que ces échanges suivent des règles d'économie. La coopération est réciproque, mais si une plante ne paye pas son dû, elle est punie par les champignons. champignons qui lui livrent moins de nutriments. L'inverse est vrai aussi, les bons fournisseurs parmi les champignons reçoivent des récompenses de la part des plantes. Ces réseaux fongiques souterrains sont essentiels. Ils absorbent plus d'un tiers de l'équivalent de CO2 de notre atmosphère, rendent les plantes plus résilientes face aux sécheresses et aux maladies, améliorent les rendements agricoles et protègent contre l'érosion des sols. Toby Kears a cartographié pour la première fois la répartition mondiale de ces champignons mycorhiziens. Un atlas qui fait apparaître sous nos yeux des réseaux jusqu'ici invisibles et pourtant indispensables à la vie. Un outil révolutionnaire pour les protéger.
Extraordinaire donc, réseau de champignons, y compris sous les terrains de foot.
Et on va en parler évidemment tout de suite. Merci Charlotte Hydrac. Puisque la CAN reprend aujourd'hui. Bonjour Esteban Mirales.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Avec les demi-finales et les grands favoris au rendez-vous, le premier match opposera le Sénégal à l'Égypte à 17h temps universel. C'était l'affiche de la finale de 2022 et les Sénégalais comptent bien gagner encore une fois. Leurs supporters y croient fort, comme on peut l'entendre dans ce reportage de
HDR.
Le mix.
Aconselho a não parar.
अरमान है 99.1.
Le mix.
Vous êtes une femme de 25 à 65 ans ? Ce message vous concerne. Chaque année, plus de 3000 cancers du col de l'utérus sont diagnostiqués et provoquent le décès d'environ 800 femmes. Pourtant, grâce au dépistage régulier, 90% de ces cancers pourraient être évités. Entre 25 et 65 ans, faites-vous dépister. Le test permet de détecter la maladie à un stade précoce et d'augmenter les chances de guérison.
Parlez-en à votre médecin ou à une sage-femme. Informez-vous sur jefaismondépistage.cancer.fr. Un message de l'Institut National du Cancer.
Amateurs de musiques électroniques, cette information est faite pour toi. Des nouveautés, du mix, mais surtout des interviews d'artistes. DJ Academy, c'est votre magazine hebdomadaire Nouvelles Tendances Électroniques. DJ Academy, présenté par Stéphane Chambord, à retrouver sur l'antenne de Radio HDR 99.1 FM, tous les mercredis à partir de 23h.
HDR 99.1.
Balls lick by it so we dash in that. Looking like a cocaine addict. Raise it.
Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1.
Oh, chigualito, chigualatero, chigualito.
HDR 99.1.
What makes you blind? I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate.
Kumikata Station, c'est votre émission reggae, un mardi sur deux de 18h à 20h.
Sur la radio HDR.
Deux heures de reggae sur vinyle, des infos du mouvement Sound System, des invités.
C'est Kumikata Station.
Animé par Liviti, un mardi sur deux sur le 99.fm. En live sur le Facebook de la radio HDR, page Facebook Kumikata Station. Alors n'oubliez pas, un mardi sur deux, c'est Kumikata Station de 18h à 20h. Ce mix des cultures.
Le voyage radiophonique. Des documentaires sonores, francophones, indépendants. Chaque mercredi à 18h et le samedi à 14h sur Radio HDR. Bon voyage.
Soul Connection, la black music des années 60 et 70. Deux heures de plaisir toutes les semaines à déguster en trois étapes. En entrée, 60s et 70s soul classics, soul, disco, funk, en oldies comme plat principal. Et pour le dessert, dance floor soul connection, disco, funk, classique. Soul Connection, tous les jeudis de 21h à 23h sur HDR 99.1 à Rouen. Tous les mercredis de 18h à 20h sur Principe Actif 102.